This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Quelle semaine ! On s'attendait à ce qu'elle soit sous le signe de l'Europe, mais pas forcément à ce point-là. Mardi est sortie iOS 17.4, la première version adaptée au DMA, la grande législation qui oblige Apple à ouvrir son écosystème à la concurrence. La veille, la Commission européenne a infligé une amende de 1,8 milliard d'euros à Apple dans le cadre d'un dossier antitrust avec Spotify. Et Apple est également empêtré dans une autre affaire avec Epic qui a vu son compte développeur supprimé subitement. On en oublierait presque que de nouveaux MacBook Air sont maintenant disponibles. On va discuter comme d'habitude de tous ces sujets avec Christophe. Nous sommes le samedi 9 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Les avocats d'Apple et de la Commission européenne n'ont pas chômé cette semaine, ça a tiré dans tous les sens. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, bah écoute, ça va mieux que la semaine dernière. Alors, je vous dois la vérité, la semaine dernière, il m'est arrivé un petit truc juste avant l'enregistrement du podcast. J'ai assisté à une tentative d'assassinat, mon micro a voulu détruire mon MacBook Pro 14 pouces. En fait, je les avais posés côte à côte sur une table qui est pas très 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 stable et le support du micro est quand même pas génial. Et en l'effleurant, il est tombé et boum, il est tombé au niveau de la touche Touch ID, et donc il a dû toucher un petit peu l'écran, et donc je m'en suis pas rendu compte au début parce que la chute elle était vraiment insignifiante, et donc juste au moment de t'appeler, je vois mon Mac avec deux grosses bandes noires, une latérale et une verticale qui traversaient l'écran, et donc voilà, donc j'étais un petit peu, voilà, un petit peu blême quand je m'en suis rendu compte. On a pu quand même enregistrer le podcast.
Ça a marché quand même, ouais.
Et on a eu de la chance parce que 10 minutes après l'enregistrement du podcast, l'écran est devenu entièrement noir. Il n'y avait plus rien à faire.
Et comme par hasard, ça arrive juste avant la sortie de nouveau Mac.
Eh oui, mais je ne l'avais pas en Apple Store. Alors, ouais, ouais. Bon, j'ai joué pendant une semaine avec un MacBook Pro 16 pouces. Je me suis dit que quitte à faire, je n'avais jamais utilisé ce format, donc autant essayer de tirer du positif de cette expérience. Mais j'en profite, la vraie leçon à tirer de cette histoire, c'est qu'il faut toujours, toujours, toujours prendre un contrat AppleCare avec son Mac. Bon, cette mésaventure, elle m'a peut-être valu quelques cheveux blancs, mais je suis plus à ça près, mais elle ne m'a coûté que 99 euros.
Ouais.
Voilà, c'est pas grand-chose, parce qu'en théorie, la réparation chez Apple est facturée 809 euros. Et donc, après ce podcast, je vais pouvoir aller chercher mon MacBook Pro qui a été réparé entre-temps.
Mmh. Mais comme une malédiction à Mac Génération, j'ai remarqué, Avant chaque lancement de nouveaux produits, quasiment, il y a des produits qui tombent en panne. Des Macs à remplacer, des iPhones à remplacer.
Ouais, mais il y a des maladies mytho des fois aussi. Non, mais ceci dit, tu vois, en plus, à chaque fois, enfin, ces derniers jours, je trimballais pas mal le MacBook Pro et je regarde, je l'ai pas depuis très longtemps. Et je suis toujours épaté et un peu inquiet par la charnière et la finesse de l'écran. Et je me faisais la réflexion, mais ça, comment ça va vieillir d'ici quelques années? Voilà, ben voilà, je sais pas, ça. Mauvais présage.
Ouais. Alors, cette semaine est sortie iOS 17.4. Si vous avez installé le système, on peut vous signaler tout de suite une nouveauté sympa. Avec l'application Apple Podcast, vous devriez avoir une transcription complète de cet épisode. Vous pouvez donc lire nos paroles en appuyant sur une petite icône de bulle en bas à gauche sur iPhone et sauter directement à un passage en touchant le texte. On va maintenant parler du premier sujet de la semaine. Ça fait des années qu'on en parle, c'est maintenant une réalité. Le DMA est entré en vigueur le jeudi 7 mars. Alors un petit rappel, si vous viviez dans une grotte jusque-là, le DMA c'est le règlement européen qui entend insuffler de la concurrence sur les très grandes plateformes numériques. Ça concerne Google, Amazon, Meta, Microsoft, TikTok et Apple donc. Pour Apple, ça concerne plus spécifiquement l'App Store et iOS, qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne. En résumé, la Commission européenne veut réduire la mainmise d'Apple sur ses plateformes. Apple est notamment obligé d'autoriser des boutiques alternatives d'app, des systèmes de paiement alternatifs dans les apps, ou encore d'autres moteurs de rendu que WebKit. Alors Christophe, iOS 17.4 est la première version d'iOS adaptée au DMA. Qu'est-ce qu'elle change dès à présent ?
Depuis que j'ai installé, j'ai une jolie photo de Thierry Breton en fond d'écran, mais j'arrive pas à l'enlever. Je sais pas si c'est normal ou pas.
Je crois que c'est un piratage.
Impossible. Non, en fait, pour le moment, c'est pas le grand soir. Hein. Il y a pas de gros changements. Finalement, en tant qu'utilisateur, la chose la plus marquante, c'est la possibilité de choisir son navigateur web par défaut. On n'est tellement pas habitué sur iOS que ça fait bizarre la première fois qu'on voit ce pop-up apparaître et dire « Ah tiens, bah... » Donc là, en ce moment, j'essaye DuckDuckGo, qui est d'ailleurs un très bon navigateur. Et donc, oui, on se retrouve à moins utiliser Safari. Donc, c'est un petit peu surprenant.
On pouvait déjà changer son navigateur par défaut. Mais disons que là, la nouveauté, c'est que voilà, Apple est obligé de mettre un grand écran au premier lancement de Safari existe d'autres navigateurs.
C'est le côté « Ah oui, c'est possible de faire ça ». Donc voilà, Apple prie pour que... l'Union européenne ne fasse pas la même chose avec le moteur de recherche, parce que même si c'est possible également, mais voilà, si on se retrouve au lancement avec un gros panneau disant il n'y a pas Google dans la vie, ça pourrait leur faire perdre un petit peu d'argent. Ceci dit, voilà, c'est comme on disait, les autres changements, là, donc on parlait un petit peu des boutiques tierces. On devrait avoir des acteurs arrivés d'ici quelques semaines, quelques mois sur le marché, comme Setapp, hein, qui a annoncé qu'elle serait prochainement en bêta. C'est également clair que les gros ont une stratégie d'attendre et de faire pression sur Bruxelles pour qu'Apple change certaines règles et laisse tomber ou baisse dramatiquement le coût de la core technology fee. C'est sûr que, comment dire, la façon dont Apple implémente le DMA, je suis assez persuadé que ça ne satisfera pas à 100% l'Union européenne. Je suis même pas sûr que on arrive à 50%. Ce qui est très intéressant, et on n'est pas habitué avec ça avec Apple, c'est qu'Apple nous a donné une vraie roadmap quand même.
Eh oui, elle est obligée.
Ça, ouais. Ça fait un petit peu peur. Il y a des choses, tu te dis, waouh, c'est vrai que ça doit être compliqué. La possibilité de pouvoir effacer Safari dans iOS, ça sera pour fin 2024. Alors moi, ce que je trouve ça fort, c'est alors le choix d'utiliser un autre logiciel de navigation par défaut que Plan. Pour ça, il faudra attendre mars 2025. On imagine qu'il y a quantité d'ingénieurs qui doivent travailler jour et nuit pour rendre cette fonctionnalité possible. Mais alors, le truc le plus marrant, c'est que finalement, la fonctionnalité la plus gênante pour Apple, celle qu'elle a vraiment pas envie de voir, et bien celle-ci, elle arrivera vraiment en dernier, c'est de faciliter le transfert des données d'un iPhone vers Android. Alors ça, il ne faut pas attendre cette fonctionnalité avant l'automne. Je ne parle pas de l'automne 2024, mais de l'automne 2025. Donc, iOS 19. Hein.
Oui, voilà, ouais. Juste avant l'entrée en vigueur du DMA, la Commission européenne a frappé un grand coup sur la table. Elle a infligé une amende de 1,8 milliard d'euros contre Apple dans l'affaire qui l'oppose à Spotify depuis des années. Bruxelles a jugé qu'en empêchant Spotify de communiquer ses offres dans son application, Apple s'était rendu coupable de pratiques anticoncurrentielles. Sous la pression, Apple avait un peu assoupli sa position ces dernières années, mais ça n'a pas suffi à la Commission européenne. Donc la Commission a justifié le montant exceptionnel de son amende par la gravité de l'infraction, ainsi que le chiffre d'affaires d'Apple. Cette amende est censée dissuader Apple de répéter ce type de pratique. C'est quoi la défense d'Apple dans ce dossier, Christophe ?
Bah, que Spotify doit beaucoup à Apple, et c'est pas faux, hein. D'ailleurs, le montant de l'amende est, enfin, je trouve, il est quand même assez fou, 1,8 milliard d'euros.
Ouais. Il y avait des rumeurs sur 500 millions, et du coup, quand on a vu 1,8 milliard, effectivement, ça fait un choc d'autant plus important. Ouais.
Mais oui, c'est ce que je voulais dire. 500 millions, ce sera peut-être le chiffre en appel, parce que l'Union européenne est quand même coutumier du fait qu'on ait en première instance des condamnations avec des montants extrêmement importants. Alors, ça fait plaisir à tout le monde. On a l'impression que l'Union européenne arrive à se faire un GAFA. Ça a un certain retentissement dans la presse parce que c'est des chiffres très importants. Puis des fois, en appel, ce chiffre est divisé de manière relativement importante. Et là, bon, personne n'en parle, ou en tout cas beaucoup moins. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le montant de cette amende, il est quand même à comparer avec le préjudice estimé par Spotify, qui n'est que de 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est assez fou, mais toute cette histoire est quand même assez folle, parce que Spotify n'arrête pas de se plaindre de certaines pratiques d'Apple, alors plutôt à raison, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est intéressant de constater, et certains chiffres d'Apple publiés ont permis d'ailleurs de vérifier, c'est que Spotify est de très très loin le numéro 1 incontesté de ce secteur. Et malgré tous les artifices mis en place par Apple pour essayer, on va dire, d'imposer Apple Music, Apple Music est au mieux le numéro 2 dans ce domaine, et il est talonné, et se trouve même dépassé, notamment par le service d'Amazon. Quelque part, enfin, je me demande si d'ailleurs Spotify choisit bien ses batailles, parce que c'est quand même une société qui depuis des années se bat pour sa rentabilité, et je ne suis pas certain que finalement son plus gros problème à ce niveau-là ce soit Apple. Alors, si cette condamnation d'ailleurs, elle a pu peut-être, amener une certaine sympathie à Spotify, hein. La petite société, enfin, avec quand même 10 000 employés, hein, qui se bat contre le géant Apple. À mon avis, ça a été de courte durée cette semaine en France, parce qu'on a appris également que Spotify ne mentait pas et allait revoir ses prix à la hausse suite à la mise en place de la taxe streaming.
Et l'autre affaire brûlante de la semaine, c'est la nouvelle suppression du compte développeur d'Epic. Alors, ça nécessite un petit rappel de l'histoire. En 2020, Apple avait fermé le compte développeur d'Epic parce que le studio avait intégré un système de paiement alternatif dans Fortnite, ce qu'Apple n'avait pas du tout aimé, évidemment. Après 4 ans de bataille judiciaire sans vainqueur par KO, Apple a restauré en mi-février le compte développeur d'Epic. Tim Sweeney était très content parce qu'il allait pouvoir faire revenir Fortnite sur iOS et surtout lancer son concurrent de l'App Store. Sauf que patatras, cette semaine, Apple a de nouveau supprimé ce compte en arguant qu'elle ne pouvait pas faire confiance à Epic pour respecter ses règles et qu'elle avait le droit de prendre cette mesure. Alors le timing n'est pas anodin parce que ça arrive juste au moment de l'entrée en vigueur du DMA, donc le DMA qui aurait pu permettre à Epic de lancer un concurrent à l'App Store. Est-ce que c'était bien malin de la part d'Apple de fermer le compte d'Epic à ce moment-là ?
Apple a vraiment envie de passer pour le Microsoft des années 90, hein, et à la fin, ça va finir très mal, et ils l'auront cherché. Ce qui est d'autant plus étonnant, alors, sachant que les deux sociétés sont, comment dire, en pleine bataille judiciaire, on peut, à la limite, comprendre la démarche d'Apple. Mais dans ce cas-là, il fallait tout simplement ne pas autoriser l'ouverture d'un compte développeur d'Epic. Ça n'aurait pas dû aller plus loin que ça. Apple aurait dû faire en sorte d'arrêter le processus bien plus tôt. Après, je pense que... Alors, je parlais justement de Microsoft des années 90. Je pense qu'Apple... Alors, c'est pas facile, parce que évidemment, vous avez des milliards de dollars en jeu, vous avez un cours de bourse, vous avez la pression des actionnaires, du conseil d'administration, tout ça. Mais il serait peut-être temps quand même qu'Apple change de fusil d'épaule, se rende compte qu'elle est quand même à un certain moment où les règles vont changer et elle peut faire quoi que ce soit, à la fin, les règles changeront qu'elle ne veuille ou qu'elle ne veuille pas. Et alors, voilà, si on peut prendre l'image d'un jeu vidéo, là, le monstre de fin de niveau, c'est l'Union européenne. Mais le jour où le niveau d'après, ça va être le régulateur américain et il peut être bien pire. Hein, donc voilà. Et alors, quand on entend qu'Apple a des ambitions sans cesse plus grandes dans le domaine du jeu vidéo, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'essayer finalement de se rabibocher avec Epic et plutôt que de s'envoyer des avocats à la figure. Ce serait peut-être pas plus mal de voir ce que ces deux sociétés peuvent faire ensemble. Alors, elles collaborent déjà sur un certain nombre de sujets, hein, notamment dans le cadre d'Unreal Engine. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres choses que les deux sociétés pourraient faire ensemble. Et je sais pas, moi, ça aurait pu être sympa de présenter Fortnite sur un Vision Pro, par exemple.
Oui, c'est sûr. Ouais. Il y aurait plein de trucs à faire entre les deux pour le jeu vidéo. Ouais. On va terminer le tour des actus avec un sujet un peu plus léger, le MacBook Air M3. On les a reçus hier, on commence tout juste de les tester. Alors il y a deux tailles maintenant dès le départ, donc 13 pouces et 15 pouces. Donc a priori, il n'y a pas de grosse surprise, hein. Ce sont des MacBook Air avec une puce M3. Leur finition minuit est aussi censée être moins retenir les traces de doigts, ce qui est tant mieux parce que c'est une catastrophe sur le MacBook Air M2 minuit. Donc Christophe, tu t'en parles un petit peu, tu as changé de Mac récemment, tu regrettes pas d'avoir attendu un peu plus pour un MacBook Air M3 ?
Ah bah, à quelques jours près, j'aurais évidemment essayé un MacBook Air M3, ça aurait été avec plaisir. On peut quand même l'appeler ce MacBook Air M3, on pourrait l'appeler l'Union Européenne Edition quand même, hein, il est tombé... Apple savait très bien qu'ils l'ont annoncé une heure ou deux après...
Après l'amende, ouais.
Après l'amende de 1,8 milliard d'euros, histoire, voilà. Regardez. Je sais pas si ça a marché.
J'ai pas l'impression.
Ouais. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le lancement s'est fait finalement dans une certaine indifférence. C'est même, il y a peut-être eu encore moins de retentissement médiatique qu'à l'époque d'un speed bump Intel. D'ailleurs, Apple n'a pas fait beaucoup d'efforts pour qu'on parle de ce MacBook Air M3. Qui, sur le papier, malgré tout, une très, très, très belle machine. Mmh. Et donc, parmi les nouveautés, moi, je trouve que le truc qui aura fait que j'aurais pu être finalement peut-être plus client du MacBook Air que du MacBook Pro, c'est quand même la possibilité, enfin, de pouvoir connecter deux écrans en refermant l'écran du Mac. Donc, ça peut quand même être intéressant. Alors, à tous ceux qui sont intéressés par cette fonctionnalité, moi, je vous recommande au minimum de prendre... l'option dessus, hein, parce que si vous avez deux écrans 5K, ça fait quand même beaucoup de RAM qui va être alloué au GPU.
Ouais. Ouais. On parlera de tout ça dans le test, évidemment. Ouais.
Voilà, et alors la dernière chose qui m'interpelle par rapport à ça, c'est qu'on constate absolument aucun délai de disponibilité concernant cette nouvelle machine. Alors peut-être que elles sont dans les cartons des en arrière-salle des Apple Store depuis des semaines, c'est possible. Mais même les partenaires tiers en ont. Donc voilà, ça veut dire que soit Apple gère de mieux en mieux ses lancements, soit, et c'est quand même un peu ce que je crains, c'est que les nouveaux Mac ne déplacent pas forcément les foules. Et c'est vrai que de toute façon, par rapport à MacBook Air M2, c'est tout sauf le jour et la nuit. Mais peut-être qu'Apple a effectivement un petit sujet, c'est-à-dire que la vague Apple Silicon est passée. Et d'ailleurs, dans sa commercialisation, elle compare toujours le M3 avec le M1, qui fait que c'est vrai que sur certains tests, il y a une différence qui n'est pas négligeable. Mais le problème, et ça j'ai pu le tester, entre une machine qui a un processeur M3 et un processeur M1, lors d'une utilisation courante, on va dire bureautique ou autre, bah finalement, vous ne voyez pas trop la différence.
Ouais, on reviendra sur tout ça en détail dans le test à venir la semaine prochaine. Bah, merci Christophe pour ce retour sur l'actu. Bon week-end.
Bon allez, je suis dans l'Apple Store. Bon week-end à tous.
Salut à tous, bon week-end et à la prochaine.